au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Pierre Gattaz, qui est le président du directoire et de la société Radial. Pierre Gattaz a une très belle carrière. Il est ingénieur des télécoms, diplômé en Administrative Management de George Washington University en 1983. Il était chef de projet chez Dassault Électronique de 1984 à 1989, directeur général des sociétés Fontaine Électronique et Convergie de 1989 à 1992 et aujourd'hui directeur général puis président du directoire de Radial depuis 1994. Alors autant vous dire que c'est un homme dynamique qui aime son pays. Et quand on lit son livre, je vais le présenter dans un instant, on est, je dirais même, ému de voir à quel point cet homme aime son pays. Ça fait vraiment plaisir. Et n'oublions pas que c'est un homme qui non seulement est un chef d'entreprise, c'est très important, mais il est en plus tourné vers le social, vers les autres. Il a été élu président du syndicat professionnel Gixel, c'est-à-dire le groupement des industries de l'interconnexion des composants et des sous-ensembles électroniques en 1999. Il a créé la FIEN, c'est-à-dire la filière des industries électroniques et numériques en 2003. Et il est devenu président de la FIEC, ce sont des noms extraordinaires, la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication en 2007. J'ajouterai, il faut quand même dire encore un mot sur Pierre Gattaz. Il est membre du conseil exécutif du MEDEF, vice-président du GFI. Et qu'est-ce que c'est le GFI ?
Groupement des fédérations industrielles.
Groupement des fédérations industrielles et président du comité national des performances et de qualité qui vise à promouvoir l'excellence dans les moyens et les process de production, notamment à travers des outils tels que le Lean Manufacturing. Alors, autant vous dire, j'ajouterai que Pierre Gattaz a 4 enfants. Et on peut même dire qu'il est né en 1959. Alors, je dois dire que, chers auditeurs, j'ai devant moi un des chefs d'entreprise parmi les plus dynamiques de France. Il y en a un certain nombre. Il vient d'écrire un livre, et c'est ce dont nous allons parler avec lui dans un instant, un livre tout à fait passionnant que les universités devraient se procurer, que les journalistes devraient lire et que tous les jeunes qui cherchent un emploi devraient se procurer. Il y a des réponses, il y a des clés, il y a une matière fantastique. À tous les âges, on apprend beaucoup en lisant le livre de Pierre Gattaz, Le printemps des magiciens. Donc le titre, c'est Le printemps des magiciens. La révolution sous titre La révolution industrielle, c'est maintenant, avec une préface de Luc Châtel aux éditions Nouveau Monde. Un livre passionnant. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio Pierre Gattaz. Dites-moi, cher président, comme vous présidez plusieurs, bien sûr, Luc Châtel a écrit une très belle préface et notamment, il est allé au cœur du sujet en disant que c'est un ouvrage sur les valeurs.
Oui, Luc Châtel était ministre de l'Industrie il y a quelques années, un an et demi maintenant, et j'ai eu le plaisir de lui montrer une usine de Radial à Voreppe dans l'Isère. On a passé quelques heures ensemble et il connaissait déjà l'entreprise, mais il a vu le Lean Manufacturing. J'ai beaucoup insisté sur les process, sur la production en France, sur la R&D, sur la qualité humaine des hommes et des femmes et sur une ambiance sereine et humaine d'une société normale, entreprise de taille intermédiaire en France, qui l'a pas surpris, mais je dirais qui lui a permis de voir qu'en France, on est capable encore d'avoir des entreprises, des industries et des gens qui se côtoient, qui créent des projets.
Et puis alors, en France, cher Pierre Gattaz, en France, il faut dire aussi qu'on vit souvent dans un climat négatif. Les gens sont très pessimistes. Et votre livre, au contraire, il propose des tas de pistes pour la France de demain. Est-ce que vous y croyez vraiment qu'il est possible que dans 10, 15 ou 20 ans, on retrouve le statut de grande nation industrielle ?
Oui, j'en suis persuadé, si vous voulez, car je crois que déjà, la crise, en fait, nous aide. Elle nous aide à montrer que l'industrie est extrêmement importante pour un pays comme la France. Pourquoi ? Parce que c'est 85% de l'innovation. C'est 80% du commerce extérieur. Il faut savoir qu'un emploi industriel crée en moyenne 2 emplois de service, c'est un minimum, hors du ménage, la restauration, la maintenance. Si vous rajoutez les écosystèmes de croissance, c'est-à-dire les fournisseurs qui vont avec locaux, vous pouvez monter jusqu'à 5 ou 7 emplois induits par l'emploi industriel. Donc je dirais que c'est une mécanique énorme vecteur d'innovation, vecteur de progrès, vecteur de changement. C'est un organe social fondamental. Les Allemands l'ont jamais détruit, ils ont toujours naturellement protégé leur industrie, les Japonais aussi. Et pourquoi la France, qui est une très belle nation industrielle, aurait déposé les armes? Moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la crise nous aide. On le voit bien avec Nicolas Sarkozy, l'initiative Grand Emprunt et surtout l'initiative des États généraux de l'industrie qu'il a menée avec Christian Estrosi il y a quelques mois, devrait nous permettre de dire oui, on a des filières d'excellence, oui, il est possible de faire quelque chose de bien, de faire de l'innovation, de gagner en compétitivité. Bon, par contre, il y a des choses à bouger et il y a des choses à faire.
Si j'ai bien lu votre livre, au fond, vous rendez un certain hommage à la politique gaulliste de l'époque qui remonte maintenant un certain temps. Vous n'êtes pas tendre avec la politique de François Mitterrand et celle de Chirac. Par contre, avec le président Sarkozy, j'ai l'impression que là, vous êtes très optimiste.
Mais si vous voulez, je suis plus optimiste, on va dire, parce que maintenant, on a les États généraux de l'industrie qui ont porté un rapport à Nicolas Sarkozy. On espère tous que Nicolas Sarkozy va mettre ce rapport en œuvre. Il faut le mettre en musique. Ce n'est pas un coup de 3 mois ou de 6 mois à l'industrie, et c'est quelque chose qui se bâtit dans la durée, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je dirais, je rends beaucoup hommage à De Gaulle et Pompidou, si vous voulez, qui ont une vision à 30 ans de leur pays, sur l'énergie, sur le nucléaire, sur l'aéronautique, sur le spatial, sur le ferroviaire, le TGV. Il y a eu des pans entiers, des filières d'excellence qui ont été créées au-delà des échéances électorales, si vous voulez. Et moi, je dis bravo, parce qu'on a aujourd'hui, on vit encore de ces pôles, de ces filières d'excellence.
Comment expliquez-vous qu'ensuite, pendant au moins 20 ans, Mitterrand et Jacques Chirac n'ont pas su développer? Ça.
Je crois qu'il y a eu la mode de l'ultralibéralisme, de la mondialisation effrénée, et qu'on a été très naïf en France, en fait. On a cru, si vous voulez, qu'il ne fallait plus faire de colbertisme, d'interventionnisme d'État, et on est passé à l'ultralibéralisme débridé, en disant qu'il ne faut surtout pas que l'État se mêle de quoi que ce soit, stratégie industrielle, donc on a même supprimé le ministère de l'Industrie. On a bien sûr supprimé les plans. Les plans, ce n'est pas ce qu'on a fait de mieux. Les plans calculs, plans machine-outils, ça a été mal vécu par tout le monde et coûté une fortune. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que faisaient les Coréens, les Américains, les Japonais, les Chinois? Ils ont eu la mondialisation a mené et des filières d'excellence qu'ils ont continué de promouvoir dans leur pays. Les Américains sont des champions de la filière d'excellence. Le Pentagone avec le militaire qui irrigue des tas de choses, la nanotechnologie, la microélectronique, etc., etc. Ils ont, après 2001, créé le National Homeland Security. Ils injectent 4 milliards de dollars par an en R&D pour protéger le pays et créer une filière d'excellence autour de la sécurité. Moyennant quoi, 8 ans après, on se retrouve avec des normes dans les aéroports qui commencent à renforcer les équipements et la vente d'équipements américains pour scanner, etc. etc. pour
oui, contrôler. Mais alors, je reviens là-dessus, comment notre pays, les têtes de notre pays, ont-elles pu être aussi aveugles?
Je crois, si vous voulez, qu'il y a eu un désintérêt qui a commencé par les élites de la nation, il faut les citer, je suis désolé, mais qui ont, avec des mots du type faiblesse, sans production, qu'on a entendu dans certains, la bouche de certains managers de haut niveau, le pure player aussi, il fallait tout sacrifier pour se concentrer sur un seul pan de filière, et puis on a revendu, bradé tout le reste. Il y a eu des modes de sans production, il y a eu la mode du service, il y a eu la mode du virtuel, souvenez-vous, dans les années 2000, il n'y avait plus de clients, il n'y avait plus de profits, on était dans un monde internet absolument délirant, et je crois que, si vous voulez, on se fait berner par des mode. Alors que si vous voulez, il faut cultiver son sillon, il faut garder les pieds sur terre, à l'allemande, je dirais.
Et à la japonaise.
Et à la japonaise. Et il ne faut pas opposer service et industrie. Les services que nous voyons sont tous liés intimement à des réseaux, à des capteurs, à des produits, etc. Même Google, où l'on ne voit que le mot Google sur Internet, ce sont des réseaux au débit, ce sont des computer centers énormes qui sont réfrigérés d'ailleurs au pôle Nord parce que tellement ça chauffe. Ce sont des algorithmes, des logiciels énormes. Donc si vous voulez, derrière le mot service et usage, il y a une pyramide énorme de hardware, de composants, de capteurs, de logiciels qu'il faut mettre en œuvre. Et on a décidé qu'il fallait garder le service. Mais le service, je suis désolé, le service, vous pouvez tout acheter à l'extérieur si vous faites que du service en France. Vous pouvez acheter chez les Chinois Huawei des réseaux au débit numérique, de la fibre optique et câbler votre pays sans avoir créé un seul emploi en France, à part du BTP pour faire les tranchées.
Au fond, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et au fond, on s'aperçoit que le problème dans notre pays, ça a été cette perte des valeurs dont parle Luc Chatel. Vous citez, alors votre livre est tout à fait passionnant parce qu'il donne d'abord énormément d'informations de premier plan, vraiment des statistiques. Et en même temps, vous vous adressez aux jeunes, notamment à vos propres enfants, qui à un moment donné, l'un d'entre eux veut être disjoqué, ça fait rêver, etc., etc. Et vous avez l'extraordinaire pédagogie de lui montrer comment il y a autre chose que ce monde peut-être passionnant, mais un peu superficiel quand même.
Oui, je crois que si vous voulez, l'industrie, c'est une merveilleuse, c'est la plus belle aventure humaine, l'une des plus belles, je dirais. On réalise des choses en équipe, on a des objectifs, on crée des produits, on crée des systèmes, on crée des services. on crée des emplois. C'est extraordinaire de participer à des équipes et à monter des projets où, qui peuvent donner des TGV à très grande vitesse, des Airbus A380 et toutes les milliers de, ou millions de choses qu'on crée tous les jours en France malgré tout et qui sont merveilleuses, dont on ne parle jamais.
On ne sait pas.
Et l'éducation nationale, et si vous voulez, ça c'est notre drame absolu, l'éducation nationale est à côté de l'industrie. L'image de l'industrie est terrible, l'image de l'entreprise est terrible en France. Alors qu'on faudrait dire, répéter, le mettre sur tous les murs, que l'industrie c'est l'emploi, l'industrie crée de la richesse et l'emploi pour le pays. Le drame c'est qu'on confie nos enfants à l'éducation nationale à partir de 5-6 ans et on nous les rend à 17 ans, ils n'ont jamais entendu parler ni de clients, ni d'investissement, ni de profit, ou alors c'est profit, profiteur, c'est pornographique, patron, c'est patron voyou, c'est horrible. On sort de là, d'une machine où on apprend des choses merveilleuses, culture générale, de l'histoire, de la géo, des tas de choses merveilleuses, des mathématiques, etc. Mais on n'apprend pas que l'entreprise est une cellule fondamentale pour une société parce que ce n'est pas que du profit à faire et qui va enrichir quelques personnes, ce qui est totalement faux. La 95% des entreprises sont faites avec des gens merveilleux, avec des patrons merveilleux que leurs salariés adorent, qui ne s'enrichissent pas de façon épouvantable, qui se défoncent ensemble pour créer de l'emploi et de la richesse, pour se battre dans la crise ensemble, et qui fait que, si vous voulez, cette mauvaise image d'entreprise est extrêmement négative et nuisible pour notre pays.
Les chiffres font mal, parce qu'à la suite de l'ISF, l'impôt sur la fortune ou sur la solidarité, etc., à la suite de cet ISF, vous dites qu'en France, il nous reste seulement 5000 entreprises de taille intermédiaire, contre 8000 en Angleterre et contre 12000 en Allemagne. Quand
absolument,
même.
Si vous voulez, je crois qu'il y a eu une période terrible en France, qui ont été en effet les années 80-90, parce qu'il y a eu une sorte de chasse aux sorcières, avec le bon ISF, qui fait que, si vous voulez, des patrons d'entreprises patrimoniales, qui sont le Mittelstand allemand, il faut savoir que l'économie allemande tient avec ses 10 ou 12 000 entreprises de taille intermédiaire qu'on appelle le Mittelstand. C'est eux qui créent des emplois, qui créent de l'innovation, qui créent de la richesse, qui vont exporter ensemble, qui sont diaboliquement efficaces et qui font que l'industrie allemande est l'une des championnes du monde. En France, on a perdu la moitié, sans doute, de ces entreprises de taille intermédiaire par des problèmes fiscaux. Ben, si oui, j'imagine, je n'ai pas les chiffres en détail, mais ce que je sais, c'est qu'en effet, on est 5000 entre 250 personnes et 5000 personnes, là où les Allemands sont 2,5 fois plus importants que nous. Il y a eu des ventes de sociétés à cette époque-là dramatiques, avec des gens qui ont récupéré leur patrimoine sous forme de cash et puis qui ont parti au Luxembourg, en Belgique, etc. Ce qui est absolument complètement délirant. Pour deux raisons. L'ISF, d'une part, qui frappait une partie de l'outil de travail. Alors ensuite, il fallait mettre les cousins, les cousines avec des postes aberrants pour essayer de s'en sortir de cet ISF, ce qui était d'une stupidité notoire. Et ensuite, les droits de succession sur les entreprises. C'est-à-dire que le patron qui voulait passer sa société à ses enfants ne pouvait pas pour des questions de droits extrêmement élevés en termes de succession. Donc on a tué, pendant cette période-là, un grand nombre de sociétés qui auraient pu survivre à tout ça, développer de l'emploi. Et c'est là où je dis, on n'est pas raisonnable en France. On tue la poule aux œufs d'or. C'est la poule aux œufs d'or qu'on est en train de tuer.
La politique du court terme, on a l'impression. Pas assez nationale, la politique du court terme, et on ne sait pas, on n'a pas su gérer suffisamment la mondialisation.
Moi, je crois, oui, en effet, si vous voulez, je crois qu'il faut revenir, et c'est là mon livre essaie d'expliquer ça, si vous voulez, aux valeurs industrielles de base. Les valeurs industrielles de base, c'est des valeurs de communication, de projet, d'entraînement, de motivation, d'empowerment des gens. À Radial, nous avons une trilogie qui est une trilogie de trois objectifs clés qui sont la satisfaction des clients, épanouissement des hommes et profit pour l'entreprise. Une trilogie qui ne doit pas s'affaiblir, un pilier ne doit pas s'affaiblir par rapport aux trois autres. Donc si vous voulez, on essaye d'avoir une harmonie, même en période de crise, qui n'est pas simple, entre nos hommes et nos femmes conservés, motivés, les clients à continuer de satisfaire, parce que ceux qui nous donnent les commandes, et puis les profits de l'entreprise pour pouvoir continuer d'investir et de durer. Et je pense que ce trépied-là, il faut le faire comprendre, c'est un trépied fondamental, et c'est vrai que la mondialisation nous impose des crises épouvantables à gérer, et qui fait qu'à chaque crise, la France détruit des emplois industriels.
C'est terrible. Alors, nous allons arrêter là la première partie de notre entretien. Je rappelle que Radial est une entreprise absolument une des plus performantes en France, qui a été, je crois, la numéro 1 sur 1500 fournisseurs d'Airbus et de Boeing. C'est quand même pas rien. Et je rappelle que, créée par votre père et par son frère, elle avait comme formule pour les 30 Glorieuses « vite et bien », que vous-même, vous avez donné une nouvelle devise « toujours mieux, plus vite et moins cher », et que vous avez même, en 2002, remis en selle en disant « être les meilleurs et travailler pour les meilleurs ». Et il faut le dire, Pierre Gattaz a écrit « Le printemps des magiciens », sous-titre « La révolution industrielle, c'est maintenant », préface de Luc Chatel, Nouveau Monde édition.
Quelles seront les énergies exploitées d'ici 2050 pour contrer la pénurie de pétrole ? Nucléaire, bois de chauffage, biosphère, géothermie ou encore hydrogène, Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, nous donne les détails de ces nouvelles énergies du futur sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Pierre Gattaz. Et Pierre Gattaz est l'auteur d'un livre extrêmement passionnant. Je veux dire, je le conseille sans hésiter à tous les jeunes notamment qui cherchent des emplois et tous les patrons qui veulent réfléchir sur leur entreprise, tous les employés, tous les cadres qui s'intéressent vraiment à l'entreprise, qui aiment l'entreprise, comme l'aime Pierre Gattaz. Et ce livre, c'est « Le printemps des magiciens », sous-titre « La révolution industrielle, c'est maintenant », préface de Luc Châtel au Nouveau Monde. Alors, cher Pierre Gattaz, nous continuons. Radial, où ça en est aujourd'hui? Parlez-nous quelques minutes de Radial.
Mais, oui, c'est une société qui passe la crise comme les autres, malheureusement. Nous sommes sur un secteur de l'électronique et de la connectique qui a baissé de 30% en moyenne sur 2009. Nous avons fait un meilleur score puisque nous avons baissé de 20%, mais c'est quand même 20%. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté un peu la voilure, on a réussi à faire quelques plans, mais quelques départs volontaires et quelques départs de fin de carrière. On essaye surtout de protéger nos hommes et nos femmes dans des périodes-là parce qu'il faut redémarrer derrière. Donc ce que l'on fait, c'est que pour les volontaires et les gens qui sont un peu à bout de souffle, on les met dans les conditions pour partir, qui nous permet d'ajuster. Et surtout, on a pris pas mal d'intérimaires et de CDD qui nous a permis aussi de se positionner vers le bas pour passer des crises de moins 20%. L'idée, si vous voulez, de ces passages de crise, on sait que ça arrive tous les 7-8 ans dans nos métiers, il faut faire le dos rond en préservant le maximum de motivation et le maximum de l'expertise des hommes et des femmes de Radial.
Écoutez, j'ai été très sensible à votre livre parce que, en peu de mots, le côté pédagogique est impressionnant. Je veux dire, si j'avais 20 ans aujourd'hui, à l'âge que j'ai, votre livre m'a énormément apporté, je suis là pour en témoigner. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, ce serait pour moi une sorte de petite Bible, parce que vraiment, il ouvre des tas de portes. Et alors, vous citez ces mots-clés que sont le client, le service, le profit, l'éthique. Et donc, tout se tient. Et c'est ça qui est très important. J'ajouterai aussi que, dans tous les chapitres, vous entrez dans le vif du sujet, et notamment sur la délicate question du partage des richesses. Et là, ça m'a interrogé, et quand le président de la République dit... Il faudrait qu'il y ait un tiers de réservé pour les salariés. Actuellement, les salariés touchent, en général, d'après le calcul général, que 7%, si j'ai bien fait mon calcul, des profits. Donc, c'est-à-dire, je rappelle qu'en 2008, 132 milliards des milliards d'investissements sont allés à l'investissement, 71 milliards aux actionnaires et 15 milliards aux salariés. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même donner un petit peu plus aux salariés? Je dirais pas un tiers. Un tiers, ça me semble beaucoup. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas donner un peu plus sans pénaliser la recherche et le développement?
Je crois qu'on peut donner un peu plus aux salariés. Moi, je crois que le problème principal, c'est l'emploi. C'est l'emploi, et je pense que tout mon bouquin, c'est d'essayer de garder des emplois et de faire et d'en créer en France. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où on détruit des emplois industriels. Grosso modo, 50 à 70 000 emplois par an détruits.
S'il n'y a pas de commande, il n'y a pas d'emploi.
S'il n'y a pas de commande, il n'y a pas d'emploi. Donc ça, c'est aussi un point que je développe énormément, c'est le client et les commandes, c'est fondamental. Ensuite, on peut avoir tout le cash qu'on veut et tous les droits du travail merveilleux pour s'adapter, etc. Si on n'a pas de commande, il n'y a pas de commande, on meurt. Ceci étant dit, pour revenir à votre question sur le partage des profits, vous avez toujours raison. Je crois qu'il y a des systèmes, si vous voulez, qui permettent de faire de la participation et de l'intéressement, qui sont des très très bons systèmes qu'on utilise à Radial, qui sont utilisés beaucoup en France. Bon, il est clair que les années 2008-2009, surtout pour les entreprises, ne sont pas des bonnes années. Ensuite, on peut imaginer l'actionnariat salarié, mais l'actionnariat salarié peut apporter des choses intéressantes de motivation, mais on peut aussi se dire, attention, le salarié peut prendre deux risques. Il a un risque par rapport à son emploi, et en plus, on lui demande de mettre ses économies dans la société. Si la société ne va mal, il va être pénalisé deux fois. Je crois que les meilleurs systèmes sont les systèmes qui permettent de partager un peu mieux les profits. Je crois que la participation et surtout l'intéressement qui permet d'avoir des ajustements, un petit peu des formules que chaque entreprise, par rapport à son secteur, par rapport à son niveau de marge brute qu'il peut dégager, il y a des secteurs où il y a 25% de marge brute, et puis comme dans le logiciel ou dans le luxe, puis il y a des secteurs dans lesquels vous avez 3%. Donc on ne peut pas partager en plus les profits de la même façon, si vous voulez. Et je crois que ce qui est fondamental dans tout ça, c'est l'investissement et c'est ce que garde l'entreprise pour perdurer, pour continuer d'innover et d'investir. Je pense que c'est ça qui est fondamental.
Puis alors, ce qui est formidable dans votre livre, Pierre Gattaz, c'est que vraiment vous donnez une image du patron qui est vraiment très différente de celle qui est colportée ici et là. L'homme qui doit trancher, prendre des risques, motiver. Et vous donnez cette formule de Sénèque qui est très belle. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Et c'est la fameuse formule de Sénèque. Et vous avez raison, le patron est quand même en France... n'est pas une personne dont on a une image souvent et partout très positive.
Et c'est une énorme tristesse, si vous voulez, parce que je crois que le patron moyen d'une moyenne entreprise, enfin même des grandes entreprises, ce sont des gens qui se défoncent pour l'emploi, etc. Je crois que dans les milieux que je connais bien, PME, ETI de mes secteurs, ce sont des gars qui comptent pas leurs heures, qui vraiment pensent tous les jours, tous les matins quand ils se lèvent, comment je vais pouvoir développer ma société, comment je vais pouvoir protéger mes salariés. Et ça, on le dit pas assez ici. Ce sont des locomotives. Ce sont des énormes locomotives, des gars qui ont pris des risques, parfois qui ont investi leur propre cash. C'est vrai que le culte du patron, qui sont presque des héros aux États-Unis, en France, c'est très souvent des escrocs. On les considère comme des escrocs. Et malheureusement, ce sont liés à quelques individus, si vous voulez, qui sont partis avec la caisse, qui ont fait des licenciements épouvantables, etc. Enfin bon, qui n'ont pas eu de grande valeur, je dirais, sociale ou humaine. Et cela, si vous voulez, crée des images du patron dramatiques en France. Et c'est pour ça, si vous voulez, que ce livre est un livre sur les valeurs, parce que je pense qu'un patron doit s'adapter à la crise, bien évidemment, doit être capable de licencier, parce que sinon, il met en péril toute sa société. Mais il doit protéger ses hommes et ses femmes, il doit développer l'emploi, il y a quelques valeurs à travers l'éthique.
Il doit être un modèle.
C'est-à-dire, c'est un mélange de l'économie et de la mécanique économique qui fait qu'il faut créer des profits. Les profits ne sont pas pornographiques, c'est l'assurance-vie pour résister, avec un modèle humain, on va dire social, mais qui doit s'adapter, si vous voulez. C'est pour ça que je propose des formules et des propositions à la fin de mon livre autour de ça.
Oui, qui est tout à fait passionnant. Est-ce que vous avez l'impression que le patron dans la réalité, au fond depuis 20 ans, a évolué vers le mieux ? Ou est-ce qu'un patron aujourd'hui est plutôt mieux dans sa peau qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années ? Je veux dire par là, est-ce qu'il est un meilleur modèle ou non, c'est difficile à dire.
Moi, je crois, si vous voulez, qu'être patron en France, il faut être extrêmement courageux parce qu'on est dans un environnement mondialisé, un peu à l'anglo-saxonne, avec des contraintes et des réglementations presque soviétiques, je dirais, extrêmement lourdes, extrêmement contraignantes. Les 2800 pages du Code du travail, les 2800 pages du droit fiscal, etc., qui fait que, si vous voulez, vous avez des réglementations et des règlements qui se poussent tous les jours. On est dans un pays de loi et on est de plus en plus traqué. Alors, vous êtes traqué par l'URSSAF, par les inspections de l'inspection du fisc, par les douanes, etc. Et je dirais que l'Europe, par-dessus, nous rajoute des réglementations. Donc, si vous voulez, la vie du patron français est aujourd'hui, alors en période de crise, vous rajoutez la notion de stress, des commandes, de l'activité à moins 10, moins 20, de l'adaptation par rapport à ça, qui fait que c'est sportif, si vous voulez. On ne se rend pas compte de ça. Et ça induit, évidemment, du stress sur les cadres en dessous et du stress sur les hommes et les femmes. Et moi, si vous voulez, je pars du principe qu'il faut recréer des marchés en France. Et ça, c'est la pierre angulaire de tout mon bouquin.
Ça, c'est important.
Recréons des marchés en France et en Europe. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, si on laisse continuer la mondialisation, on va prendre des opportunités en Chine, en Inde, au Brésil, c'est merveilleux. En Russie, c'est merveilleux. Mais on va le faire de moins en moins à partir de la France. Parce que les Chinois veulent du chinois, les Indiens veulent de plus en plus de l'Indien, les Russes veulent de la production et de l'assemblage russe. On va progressivement mettre nos usines en Chine, et après nos usines, ce sera les centres de R&D qui vont aller en usine.
Et puis,
moi, je crains que si on continue comme ça, sans gouvernance industrielle, française, voire européenne, ce qui serait beaucoup mieux, on risque d'avoir, de constater des pertes d'emplois.
Et puis, un peu partout, il y a une qualité française dans les objets, dans tout ce qu'on peut acheter, qui est tout à fait fabuleux, des couteaux, ça existe.
Et c'est pour ça que la guerre n'est pas perdue, si vous voulez. C'est pour ça qu'il est important, et je pense que cette crise est fondamentale pour réagir de façon positive, pour que le gouvernement actuel mette en œuvre les propositions des États généraux. Et moi, ce que je dis, fondamentalement, c'est qu'il faut retrouver une ambition industrielle pour le pays. Une ambition industrielle presque gaullienne, en disant quelles sont les filières d'excellence du futur, à travers les besoins sociétaux des gens. Si vous demandez à Mme Michu dans la rue, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de sécurité. Sécurité chez elle, dans un avion, etc. Elle a besoin de santé et de bien-être. Et de ne pas faire dépenser trop à la collectivité. Et elle a besoin de développement durable. Polluer moins, efficacité énergétique, etc. etc. Elle a besoin d'un emploi pour ses enfants et pour elle. Donc si vous voulez, si on part de ces besoins sociétaux vitaux, dans un monde occidental, on peut développer des tas de filières d'excellence autour de la santé, de la télémédecine, de la route intelligente, de la voiture propre, de l'efficacité énergétique, de la moindre pollution, du moindre CO2. Et ça crée des dynamiques de croissance extraordinaires liées à l'innovation qu'on pourrait développer pour permettre d'exporter de nouveau des systèmes, des composants, des capteurs dans le monde entier sur ces grands axes.
Mais comment se fait-il, encore une fois, que l'on ne connaisse pas assez tous ces personnalités qui innovent, tous ces patrons qui sont tout à fait des créateurs, comme vous, comme l'a été votre père, votre oncle, etc., etc., et comme le sont des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes, comment ça se fait que on ne fait pas passer suffisamment les messages sur ces merveilleux créateurs d'emplois ?
C'est une question, en effet, qui est bonne à se poser. Il y a quelques radios, comme la vôtre, qui parlent de l'économie, etc., de l'industrie, comme BFM. Il y a quelques médias, si vous voulez, qui en parlent, quelques journaux. Mais si vous voulez, globalement, moi, je crois que, si vous voulez, c'est culturel, et ça provient sans doute de l'éducation nationale. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais je pense que, si vous voulez, on a deux mondes qui se regardent en chaîne de faïence, qui s'observent, qui ne se comprennent pas. Et je pense que tant qu'on sera dans ce système-là, on aura en effet des très mauvaises idées et d'images du patron de l'industrie, de l'entreprise. Et ça, c'est dramatique pour le pays. Dramatique.
Et comment, je vous entends bien sûr, et comment se fait-il que les journaux, les médias ne parlent pas suffisamment, même s'il y a des journaux économiques quand même qui se tiennent pas mal, mais... Comment se fait-il qu'ils n'en parlent pas?
Je crois qu'ils en parlent un peu plus, je crois qu'on en parle, mais qu'ils ne sont pas écoutés forcément. Il faudrait retrouver, je pense que là aussi, il faudrait beaucoup mieux communiquer, il faut aussi faire des campagnes de médiatiques. Vous savez, en Allemagne, quand vous allez en Allemagne, vous regardez la télévision, vous avez très souvent aux 20h allemand de la fierté d'avoir réalisé tel grand TGV, grande vitesse allemand, telle réalisation d'une petite société qui a réussi dans du photovoltaïque, etc. Nous, en France, le 20h, on voit les pneus brûlés, on voit les séquestrations de cadres, on voit les problèmes de conflits sociaux, on voit Total qui est en grève. C'est dramatique. C'est dramatique.
Oui, là, je pense que vous avez touché du doigt des aspects très importants et notamment, comme patron, vous donnez des formules choc, un intérêt pour autrui. Quand vous cherchez des gens recrutés, vous devez rechercher trois qualités, dites-vous, l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, c'est-à-dire l'intégrité, les deux autres vous tueront. Alors, on retrouve cette fierté aussi d'être français et je crois que là, c'est vraiment très important ce message de ce que nous faisons dans notre pays et votre livre est un gros apport aujourd'hui pour cette fierté des industries françaises, des entreprises françaises et de cette jeunesse qui se tourne vers l'emploi. Votre livre est très important, vous savez, Pierre Gattaz.
Je me souviens toujours lorsque l'Airbus A380 a été sorti des chaînes de l'usine de Toulouse il y a quelques années, il y a 4-5 ans, c'est le plus gros avion du monde, 800 places, etc. Ils ont fait un 20 heures consacré à l'A380, il y avait les fournisseurs, les salariés qui étaient dans le hall, il y avait la télévision qui était là. Moi, j'étais ébloui, émerveilleux. Je me suis dit, mais on est encore capable de faire des merveilles pareilles en France. Mais il faudrait qu'on ait un A380 tous les jours aux 20 heures. On a fait ça, on a fait telle PME a sorti telle innovation, tel truc. Et je pense que, si vous voulez, ça permettrait sans doute de recrédibiliser et de faire en sorte que, oui, on va s'en sortir collectivement. Oui, on n'est pas plus bête que les autres. On n'est pas plus bête que les Allemands ou les Japonais. On a des ingénieurs fabuleux. On a des cadres fabuleux. On a des hommes et des femmes fabuleux. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'il faut les mettre en mouvement et il faut arrêter de taper sur l'entreprise toute la journée ou sur l'industrie toute la journée.
Et de jouer solo. Le problème, c'est nos tribus gauloises. Et souvenez-vous du très beau livre aussi qui vient de sortir de Daniel Cordier, alias Caracalla, sur la grande résistance en France. Ce monsieur qui était un représentant gaulliste voyait que les résistants entre eux se déchiraient, alors qu'ils auraient dû déchirer les Allemands. Alors, donc, c'est le gros problème que nous avons.
Je pense qu'on a des antécédents gaulois, sans doute, les tribus gauloises, et que malheureusement, ça nous pénalise. On le voit bien à l'exportation sur des grands programmes nucléaires, etc., qui ont défrayé la chronique récemment. Et si vous voulez, là encore, les Allemands chassent en meute, naturellement. Ils chassent en meute, ils vont ensemble à l'export. Les Japonais aussi, alors dans un style un petit peu différent, un peu féodal. C'est-à-dire que lorsque Toyota ou un constructeur emmène ses fournisseurs, il les emmène après les avoir décortiqués. En France, si vous voulez, on a détruit un peu les écosystèmes, les industriels de fournisseurs. On s'est précipité à acheter le premier Taïwan est venu parce qu'il offrait moins 15%. On n'a pas mis ça dans la perspective, dans la durée, dans l'innovation.
Toujours le court terme.
Toujours le court terme. Et ça, c'est dramatique parce que l'industrie, ça se construit en plusieurs années, en des décennies parfois. Et on peut tuer une société en 6 mois.
Est-ce que vous ne croyez pas que suite à ce livre qui est vraiment formidable, il ne serait pas important de créer une sorte de cours sur cette pédagogie pour montrer aux jeunes comment chasser en meute pour aller trouver, pour aller vendre nos produits. Et tu n'aurais pas là, vraiment, il ne faudrait pas monter une école ou un cours à partir de vos méthodes qui sont tout à fait importantes.
Alors, je crois qu'il faut en effet avoir plus de passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. À Radial, par exemple, on prend des classes en entreprise. Alors, c'est quelque chose que j'ai lancé au niveau de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, où on prend 3-4 jours des élèves de 3e, 4e, 1er, 2nd. Ils viennent pendant 4 jours avec leur professeur de l'entreprise pour voir que ce n'est pas un lieu de lutte, un lieu de coercition, mais que c'est un lieu où les gens travaillent bien ensemble et que ça se passe bien et qu'ils apprennent des tas de choses et qu'ils s'épanouissent et qu'ils peuvent s'épanouir. Et on le fait. Alors, par ailleurs, je dois aussi prendre contact avec les équipes de Luc Châtel pour voir comment faire, en effet, pour mettre en œuvre ces passerelles. Bon, il y a le programme de l'économie en seconde qui est une première réponse, si vous voulez, mais il en faut des dizaines de réponses. Il en faut des dizaines pour montrer que l'entreprise, c'est un lieu où on crée de l'emploi, de la richesse et surtout, je dirais, de l'emploi qui rapporte au pays. C'est ça qui est important. L'entreprise est un lieu qui rapporte, vous voyez, si c'est bien fait, par les taxes, par tous les impôts qu'on paye, etc., et par la valeur ajoutée qu'on crée dans le pays. Mais ça, on ne le dit pas, on ne le sait pas. Donc, les jeunes rêvent d'être fonctionnaires.
Ce livre, cher Pierre Gattaz, est un livre quand même d'un certain visionnaire. Hein. On peut dire qu'il a une vision. Et notamment, vous notez bien que tous les 7 ou 8 ans, il y a les fameuses crises qui nous tombent dessus. Et attention, la prochaine peut s'annoncer vers 2016-2017. C'est inquiétant quand même.
Je crois que si on laisse les choses en état, Il est très clair qu'on risque d'avoir de nouvelles crises à gérer. Le rythme que j'ai détecté, moi, si vous voulez, c'est 91-92 après du mur de Berlin. C'est 2001-2002, la crise Internet-Télécom. 2009, les subprimes. Pourquoi pas 2016-2017, l'écroulement de la Chine ou les problèmes bancaires en Chine ou un problème Iran-Irak ou autre problème. Bon, on va de nouveau avoir des crises. Le problème en France, c'est qu'on détruit des emplois pendant la crise et on ne les recrée pas derrière. Et ça, c'est dramatique parce qu'à chaque crise, les marchés partent. Les Américains sont capables de baisser la voilure en 2 mois et de recréer de l'emploi extrêmement vite derrière. Donc, ils s'adaptent très rapidement. Les Allemands ont un code du travail permettant d'aménager par du temps partiel, de longue, très longue durée, et de baisser la voilure. Nous, si vous voulez, c'est toujours un drame. Et malheureusement, c'est souvent les PME, les ETI qui trinquent pendant ces crises. Lorsque vous avez moins 20% de commandes en moins, on ne sait pas gérer moins 20% sur les effectifs aussi facilement que ça.
Et nous arrivons à la conclusion, enfin qui n'est pas une conclusion, mais qui est une ouverture surtout à lire votre livre, qui est un livre tout à fait passionnant. Au fond, il y a quand même une sorte de déséquilibre entre le poids de l'administration, la place insuffisante laissée à nos industries de pointe et avec nos fameux écosystèmes, si j'ose dire, l'éducation qui ne fait pas assez son travail, et j'ajouterai les médias qui pourraient en faire peut-être un petit peu plus. N'oublions pas que ce livre de Pierre Gattaz, je le répète, « Le printemps des magiciens » aux éditions Nouveau Monde, est un livre qui est tout à fait passionnant, pragmatique, solide, pédagogique comme c'est très rare, intéressant, vraiment intéressant. Et lisez seulement, chers auditeurs, à la page 79, la belle déclaration d'amour à l'industrie. C'est vraiment une page à lire. Rappelons aussi les formules choc qu'utilise Pierre Gattaz. Par exemple, à un moment donné, à la page 172, il dit « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Tu m'impliques, j'apprends. » C'est quand même fabuleux, ça. Et n'oublions pas les modèles sur lesquels a insisté Pierre Gattaz du Japon et de l'Allemagne, deux pays qui vraiment ont souvent bien fonctionné. Et le livre se termine par une très belle formule de Saint-Exupéry. Donc, c'est dire la hauteur lorsque Luc Chatel parlait des valeurs de Pierre Gattaz. Je pense que nous avons la chance d'avoir un chef d'entreprise comme lui et comme tous ceux qui se rapprochent de lui, bien entendu. Et Saint-Exupéry de dire, la formule que reprend Pierre Gattaz, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Je vous remercie infiniment, Pierre Gattaz.
Merci infiniment, c'est moi. Merci beaucoup.